Jocs sóc la Sílvia. Vous êtes sur Easy French.
Bonjour, bonjour les amis.
Salut, salut.
Bienvenue. Et voilà, déjà le second épisode de notre podcast Les Filles.
Waouh.
Youhou. Alors aujourd'hui, on vous a concocté un petit épisode sur un événement qui est arrivé récemment dans nos vies, à toutes les trois, ou qui va arriver dans la vie de l'une de nous. Et c'est roulement tambour, qui veut le dire.
Attention, vous êtes prêts?
Jude.
Le déménagement.
Youhou. Donc non, c'était pas un mariage, c'était pas un accouchement encore.
Oh, c'est pas loin.
C'est pas loin, c'est pas faux. Eh bien, on va vous expliquer tout ça. Alors, Hélène, peut-être que tu peux nous dire pourquoi ça te concerne également?
Alors, moi, j'ai déménagé en octobre 2021. Enfin, pas vraiment. Ça, c'est la version courte parce que j'ai déménagé en août 2021, fin août 2021, et j'ai emménagé en octobre 2021. Donc, c'était un déménagement en deux temps. Ce qui a rendu la chose d'autant plus compliquée. Et donc, depuis octobre, je vis dans mon studio, mon nouveau studio, dans le 11e arrondissement de Paris. Et j'ai quitté mon studio d'étudiante dans une résidence étudiante dans laquelle j'ai habité depuis 3 ans.
Alors, si je comprends bien, Hélène, il y a eu un vide temporel. Tu es allée dans une autre dimension où tu étais logée, n'est-ce pas?
C'est ça. J'ai fait pause.
J'adorerais pouvoir faire ça.
Pendant un mois, et j'étais dans un autre espace-temps, à Bordeaux, plus précisément.
D'accord.
Chez mes parents.
Mais tu nous en parleras peut-être un peu plus tard. Et toi, Jude, en quoi tu es concernée par ce sujet?
Alors, j'ai plein d'anecdotes à ce sujet. J'ai failli déménager, il y a de ça maintenant, les filles, une dizaine de jours, si je ne me trompe pas.
C'est
que vous
ça.
Savez mieux que moi la chronologie de ma vie. Et ça ne s'est pas fait, mais je pense qu'on rentrera dans les détails tout à l'heure, parce que c'est très drôle à raconter. À vivre, ce n'est pas drôle, mais à raconter, c'est très drôle. Et en ce moment, je suis en recherche très active d'un nouvel appartement pour emménager avec mon amoureux. Voilà.
Oh, bah, c'est super. Bah, tu pourras nous dire, en effet, tu nous donneras plus de détails un peu plus tard. Moi, en tout cas, j'ai déménagé début janvier. J'étais en plein carton pendant que les gens fêtaient Noël et le Nouvel An. Donc moi, j'ai eu un beau sapin de Noël fait de carton. Alors, à chaque fois que j'en faisais, ma vie les défaisait. C'était très drôle, c'était une expérience incroyable. Mais nous sommes très heureux d'avoir déménagé très, très, très loin de chez nous. C'est-à-dire à 200 mètres exactement de notre ancien appartement. Voilà. Bon, et ben en tout cas, les amis, nous, on vous a concocté quelque chose de très sympa. Parce qu'on s'est dit... Pour tous ceux d'entre vous qui aimeraient un jour peut-être déménager en France ou qui aimeraient simplement, étant curieux, savoir comment on fait les démarches, l'avant, un peu le pendant et l'après du déménagement, on a discuté avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Mathieu. Et qui est, peut-être Hélène, tu peux nous expliquer qui c'est?
Alors Mathieu, c'est quelqu'un de très spécial pour nous, parce qu'il était là au tout début de notre communauté sur Patreon, la communauté avec qui on discute sur Slack. Donc c'était il y a presque 2 ans maintenant qu'il nous a rejoints sur ce groupe-là. Et il était à ce moment-là en Australie, et puis il a déménagé à Paris. Et donc il y est depuis, il me semble, plus d'un an maintenant. Et on a pu le voir plusieurs fois depuis. Et maintenant, on essaye de se voir régulièrement. Et c'est devenu un ami, en fait, qui parle extrêmement bien le français et qui a donc eu la gentillesse de bien vouloir nous apporter son expertise dans tout ce qui est déménagement, emménagement à Paris, en France, en tant qu'étranger.
Et oui, et puis Mathieu surtout a vécu, donc Mathieu est d'origine chinoise, il a vécu en Australie avant de venir en France, donc il a quand même une expérience assez large, on va dire, de déménagements internationaux en tant qu'étudiant. Et puis, pour la petite anecdote, Judith l'a rencontré pour la première fois dernièrement. Tu veux nous en parler, Judith?
Alors, encore une fois, chronologiquement, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, c'était il y a un mois
Ouais, à peu près.
Un mois ? Ok. C'était pour... Après le retour d'Hélène d'Éthiopie, alors ça, on aura largement l'occasion d'en reparler dans un autre épisode, mais on a voulu faire une petite surprise à Hélène, lui concocter une soirée un peu particulière, et on a invité Mathieu. Alors Mathieu, Hélène et Rita l'ont déjà rencontré à plusieurs occasions et j'ai jamais vraiment pu me joindre à elle à ces moments-là, malheureusement. Et donc voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Mathieu pour la première fois et c'était assez émouvant pour nous deux. On a pris des photos, c'était un chouette moment.
Et puis nous, on est tellement tout le temps soudés et ensemble qu'on n'avait même pas réalisé, en tout cas personnellement, que Judith ne l'avait jamais rencontré.
Voilà. Oui, oui, c'est vrai.
Bon, bah alors qu'est-ce que je vous suggère un truc, les filles? On peut peut-être, parce que je sais que Hélène, tu as enregistré déjà un petit podcast avec Mathieu. Je suggère, en réalité c'est l'idée de Judith, de pouvoir écouter et puis de commenter directement. Comme ça, on pourra discuter de tout ça ensemble, de ce qu'il a pu vivre, son expérience. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles?
C'est parti!
Super!
Salut Mathieu!
Salut Hélène, comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Je vais bien, merci.
Bon, alors, ça fait un petit moment qu'on te connaît en tant que fan de Easy French et maintenant ami. Et maintenant, oui. Tu habites à Paris. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu es arrivé à Paris et comment tu as emménagé à Paris?
Du coup, pour trouver un appartement à Paris en tant qu'étranger en France, ce n'est pas évident à trouver un logement au tout début parce que les bailleurs nous demande une carte bancaire, alors que les banques nous demandent une adresse domicile. Donc, c'est un cercle vicieux. Et au tout début, c'était difficile. De plus, pour obtenir une carte bancaire, j'ai dû attendre plus de six semaines parce que tout est communiqué par courrier. Donc, c'est pas très efficace.
Waouh! Non, mais ça, c'est mythique. Enfin, c'est incroyable. C'est vraiment le chat et la souris, quoi. Enfin, le serpent qui se mord la queue, je voulais dire. Mais on dirait un sketch, on dirait un gag.
Et tout ce qui est Internet, électricité, tout ça, est-ce que c'était facile d'installer ça chez toi?
Par rapport à l'électricité, je pense que c'est assez facile. Il suffit de chercher en ligne pour trouver un fournisseur de l'électricité. Et l'important est de savoir où se trouve le compteur électrique. Et du coup, il suffit de remplir les formulaires, par exemple les estimations de consommation et du coup une adresse domicile précise. Et voilà.
Wow, ça a quand même l'air plutôt compliqué. Hein. Tu dis que c'est facile, mais...
c'est plutôt facile. C'est juste qu'au tout début, on n'a pas vraiment de référence, tu vois, pour savoir combien on consommera. C'est un peu risqué à donner un chiffre, du coup.
Ouais, t'as pas envie de te retrouver à devoir payer plus que ce que t'as prévu, c'est ça?
En fait, je me suis remboursé le mois dernier parce que j'ai beaucoup moins consommé que ma souscription. Donc, je suis content.
Ça fait plaisir.
Oui, ils vont nous rembourser, en fait.
Alors, si ça vous intéresse de retrouver l'intégralité de la petite interview que Hélène a faite avec Mathieu et qui est très intéressante, on vous conseille de devenir membre d'Easy French. Alors, tous les détails seront expliqués dans la description de ce podcast et vous aurez accès à plein de bonus, dont notamment des extras. Et pour cet épisode, l'interview intégrale avec Mathieu.
Eh ben, c'est super, on vous attend nombreux, les amis. Alors, on va peut-être revenir un petit peu à nous et parler un peu de nos expériences avec le déménagement. Alors, comment ça s'est passé pour toi, Hélène?
Pour moi, c'était très stressant parce que j'avais un logement étudiant qui était très confortable pour moi parce que très peu onéreux. C'était la raison pour laquelle c'était confortable. Hein, il n'y avait aucun autre avantage. Mais... j'ai dû le quitter, bien évidemment, une fois que j'ai fini mes études. C'est normal, il faut le laisser pour les autres qui sont les nouveaux étudiants. Et donc, j'étais au sommet de quitter mon logement. Et bien sûr, c'est très compliqué de trouver un logement quand on n'a pas une certaine situation, un certain type de situation. Donc, soit étudiant avec des parents qui peuvent se porter garant, soit avoir un CDI, donc un travail à temps complet et surtout à durée, un contrat à durée indéterminée. Et ça, ça rassure les propriétaires qui savent que la personne, normalement, sera capable de payer son loyer chaque mois. Et moi, à ce moment-là, c'était pas vraiment mon cas. Donc, c'était très, très stressant d'envisager la recherche d'un appartement. Mais heureusement, j'ai eu la chance de connaître quelqu'un, une amie très proche, dont les parents étaient propriétaires d'un appartement et qui cherchait justement un locataire ou une locataire. Et donc, c'est par le biais de mes propres connaissances, de mon propre réseau, que j'ai pu obtenir un appartement.
Et donc, quelque part, tu as aussi utilisé ta communauté.
C'est ça, ma communauté, exactement. Parce que sans ça, je pense que ça aurait été vraiment beaucoup, beaucoup plus difficile. Ouais. Et après, le déménagement en soi, le fait de transporter mes affaires, ça, c'était vraiment pas si compliqué. C'était franchement le plus facile, je pense, parce que j'avais peu d'affaires, vu que mon studio était meublé et le studio dans lequel j'ai aménagé était également meublé. Et en plus, il y avait Super Rémi, le mari de Rita, avec sa voiture, qui a transporté toutes mes affaires en une seule fois. Donc...
Bravo ouais. Hélène,
peu d'affaires, une voiture assez grande et puis bon sens de l'organisation et voilà. J'ai jeté beaucoup de choses aussi avant de déménager quand même.
On va remercier Marie Kondo pour les conseils.
Je réagis juste sur ce que vient de dire Hélène. C'est vrai que le déménagement, ça permet vraiment de faire le vide, de repartir à zéro, de se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'on a accumulées, dont on n'a pas besoin. Et je pense que c'est vraiment le seul point positif du déménagement.
Encore faut-il avoir le courage de le faire. Parce qu'on se pose la question toujours. Alors cet objet, comme dirait Marie Kondo, il m'apporte encore de la joie. Mais il y a toujours la question dans sa tête, est-ce que je risque de vouloir l'utiliser un jour en 2050?
Et si jamais?
Et si jamais, ouais. Mais c'est vrai qu'il faut faire l'effort et puis surtout essayer de moins consommer et de s'assurer avant d'acheter un objet ou quelque chose qu'on va vraiment en avoir l'utilité.
Voilà. Ce serait une bonne question ça. Avant d'acheter un objet, il faut se dire si je déménage, est-ce que je vais le garder?
Très bonne question. Ah là là, et alors, du coup, comment ça s'est passé?
Ouais, je retarde un peu l'échéance. De vous raconter mes aventures. Allez, pour la faire courte, donc je devais déménager il y a une dizaine de jours. On avait déjà fait plein de visites et on avait un quartier de prédilection. Donc nous, c'était le 13e arrondissement, près de la Butte aux Cailles. Et on avait trouvé cet appartement qui nous plaisait énormément, qui était grand, très lumineux, qu'on avait visité alors qu'il était encore occupé. Et on a dit oui, l'agence a dit oui, après avoir demandé peut-être, je sais pas, 3000 papiers différents. Et arrive le jour de l'état des lieux. Alors, l'état des lieux, c'est quand, avant de récupérer les clés d'un appartement, on fait vraiment une espèce de revue de tout ce qu'il y a dans l'appartement, donc du coup de l'état de l'appartement, si c'est endommagé, si c'est en bon état, si c'est neuf, et on note tout sur un papier que... Du coup, et l'agence et le futur locataire est censé signer. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'en fait, entre les deux locataires, il n'y a absolument aucun ménage, aucun nettoyage, aucune peinture, rien qui a été fait. Et donc, on voit vraiment
un appartement... Je t'interromps. En fait, tu veux dire qu'entre la personne qui habitait avant toi, avant vous, et puis vous, il n'y a pas eu de ménage qui a été fait.
C'est ça.
Incroyable.
Rien de rien.
Tu peux nous décrire l'état des lieux?
Oui. Alors, l'état des lieux, c'était plus ou moins... Donc, tout était en mauvais état, des prises cassées. Et ce qui a été très impressionnant, c'était surtout l'état de saleté. Donc, vraiment, des meubles recouverts de poussière, des éclaboussures de graisse au plafond, sur les murs, dans la cuisine. Et surtout, ce qui a été vraiment pour nous l'élément qui a fait qu'on a refusé de prendre les clés, c'était l'état du frigo qui était rempli de moisissures.
Est-ce que c'était une biologiste qui habitait là-bas, ou un biologiste?
C'est une excellente question, parce qu'on a fait nos petites recherches, et l'ancienne locataire était, à vrai dire, avocate. Donc vraiment, aucune excuse d'avoir des champignons dans son frigo.
Bon, bah écoute, on est vraiment désolés. Non, on en rit tous, mais on sait que c'est très compliqué. Mais du coup, comment tu t'en sors là? Qu'est-ce qui s'est passé après ça?
Excellente question. Donc nous, on avait tous nos cartons de prêt, le transporteur qui était déjà, entre guillemets, commandé, Voilà, on était prêts à déménager et du coup, on a dû repartir à zéro. Donc, on avait déjà payé deux loyers en avance, la caution, 1000 euros de frais d'agence.
Une somme, quoi, rien du tout. De 3 euros. Incroyable.
Et donc, nous, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et comme on avait déjà résilié le bail de l'appartement dans lequel on vit actuellement, on s'est empressé d'appeler l'agence en disant « on fait marche arrière finalement, on part plus ». Et ils ont été assez gentils du coup pour annuler la résiliation du bail. Donc voilà, pour l'instant, on est toujours dans notre tout petit appartement.
J'ai envie de dire, heureusement, à Paris, il y a tellement de ponts que vous n'auriez pas été vraiment en manque de... Enfin, le choix était là hein, pour les lieux, sous un petit pont comme ça, devant la Seine, c'est en amoureux.
On aurait pu choisir le plus beau pont. Allumer quelques bougies.
Voilà, Alexandre III, je pense que c'est le plus beau pont de Paris, selon moi.
Oh.
Ouais. Et j'imagine que pour récupérer l'argent que vous avez dépensé dans l'autre appartement, c'était pas très compliqué. On a dû vous rembourser tout de suite, non? Il devait être très embêté.
On adore l'optimisme d'Hélène. Je sens que c'est pour ça qu'elle rigole, Judith.
Alors, mais écoute, ça fait une dizaine de jours, on n'a toujours pas vu l'argent. Je suis devenue harceleuse téléphonique professionnelle. J'appelle l'agence tous les jours, 40 fois par jour.
De plein de numéros différents. Kong, basé à Singapour. Ouais, et
tu rigoles, mais je suis à deux doigts de vous demander d'appeler pour moi. Parce que je les soupçonne de ne pas répondre quand ils voient mon numéro s'afficher.
Moi, je t'ai déjà proposé d'appeler avec mon téléphone parce que je pense qu'ils ont bloqué ton numéro.
Bon, en tous les cas, franchement, on croise les doigts pour toi. On a hâte que tu puisses faire ta pendaison de crémaillère et nous inviter. Et puis, moi, mes cartons, après trois mois presque de déménagement, j'ai toujours des cartons à défaire. Donc, vous croisez les doigts pour moi. Parce que les faire, c'est facile. Une fois que c'est fait, tout va bien. Une fois que c'est déplacé, d'ailleurs, je remercie Hélène qui a fait ses jambes en descendant et remontant 4 étages pour pouvoir aider. Et puis après, en mettant tout dans un ascenseur d'un nouvel appart. C'était vraiment sport. Si tu veux en parler d'ailleurs, Hélène, tu peux y aller.
Ouais, vraiment, c'était pas si difficile que ça. Parce que c'est très automatique. Hein. On prend un carton, on descend, on remonte, on prend un carton, on descend.
Bon, moi, j'étais essoufflée après 2 cartons, hein, mais Hélène était là, non, tout va bien.
Non, mais heureusement, on était plusieurs. Il y avait un autre ami de Rita, donc on s'est partagé chacun 2 étages. On a fait un relais et finalement, c'était pas si difficile que ça. Après, le lendemain, j'avais un peu mal au bras, mais rien de bien dramatique.
Eh bien, écoute, on pensera à proposer au comité olympique pour les Jeux olympiques d'été 2024 à Paris d'ajouter ce genre d'activité, le relais des cartons. Bon, je pense que les filles, on va passer à la section suivante. Et ça, c'est Hélène.
La minute culture.
Alors, du coup, je pense qu'on va revenir sur un moment important du témoignage de Mathieu. Est-ce que tu veux nous en parler, Hélène?
Alors oui, il y a vraiment une anecdote que Mathieu m'a racontée que j'ai trouvée très amusante. C'est comment il a déménagé. Parce qu'en fait, il a emménagé dans un premier studio à Paris. Mais ce studio ne lui convenait pas vraiment et il a décidé ensuite de déménager ailleurs, aussi à Paris, dans un appartement plus grand, plus agréable. Et je lui ai donc posé la question, mais comment tu as fait pour déménager d'un appartement à l'autre? Parce qu'à Paris, comme vous le savez sans doute, peu de gens ont des voitures et ce n'est pas forcément pratique de se déplacer comme ça. Et il m'a dit, eh bien, j'ai déménagé en métro.
Alors, je précise quand même que la ligne 13 est une des lignes qui est souvent en retard. Souvent bondé de monde, donc on rate beaucoup de trains pour pouvoir rentrer dedans. Pour avoir été dans une université de Paris-Nord où il fallait prendre la ligne 13, c'est très 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 compliqué. Donc franchement, chapeau Mathieu.
Ah non mais faire un déménagement en métro, je suis impressionnée, vraiment. Et puis effectivement, comme tu dis Rita, moi aussi j'ai habité quasiment toute ma vie sur la ligne 13. C'est la pire ligne déjà pour se déplacer. Alors, pour déménager avec des valises, mais je n'ose même pas imaginer, ça a dû être la pire journée de sa vie. Je pense que toute sa vie se rappellera de ce jour où il a déménagé sur la ligne 13. Vraiment, vraiment bravo Mathieu. Tu as toute mon admiration.
Moi, j'admire aussi énormément la patience, mais quand même, je lui en ai un petit peu voulu à Mathieu. Je lui ai dit, franchement, t'aurais pu nous appeler parce qu'on se connaissait déjà. Il aurait eu 3 personnes qui auraient pu l'aider. On aurait pu même ramener des renforts et faire ça beaucoup plus vite. Donc,
Alors, non, je suis désolée, mais tu parleras pour toi. Hein. Bien évidemment que je rigole, Mathieu, si tu nous écoutes. Enfin, je pense bien que tu vas nous écouter. On t'embrasse fort et je suis d'accord avec Hélène. N'hésite pas, si tu redéménages sur Paris, à nous le dire. On viendra avec les gros bras à t'aider. Bah écoutez, je pense que là, c'est le moment et on va passer à la section suivante. Et c'est...
J'ai capté. Alors, Rita a eu la gentillesse de nous trouver la définition exacte. Je vais vous en lire une petite partie. La caution solidaire est un document par lequel une personne s'engage à payer le loyer à la place du locataire au cas où celui-ci ne l'aurait pas réglé. Et la définition précise bien que c'est un engagement lourd. Alors oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut lire sur les annonces. Il peut être demandé une caution solidaire, donc avoir une personne qui se porte garant, donc qui vraiment signe un document qui atteste de sa capacité à payer si jamais le locataire, donc nous, ne peut pas payer son loyer. Et c'est pas si évident de trouver un garant, de trouver quelqu'un qui accepte, qui a assez confiance ou qui a les moyens, il y a effectivement, si on a un pépin, de payer le loyer à notre place, quoi.
Ouais, c'est très compliqué de trouver quelqu'un. Et d'ailleurs, je connais quelqu'un qui est le cautionnaire de beaucoup, beaucoup de gens et qui serait absolument incapable de payer tous les loyers si les personnes venaient à manquer d'argent. Mais c'est vrai que c'est tellement difficile de trouver une personne qui a le statut social, le travail qui permet de justifier suffisamment de revenus, que souvent, dans mon cercle de connaissances, on revient toujours à demander à la même personne d'être notre garant. Et donc voilà, si jamais on se retrouve tous dans une situation difficile, ça retombera sur la même personne.
Tout à fait. Alors là, on va passer à des choses plus légères, les filles. Qu'est-ce que vous en dites? On va passer à la section...
Au défi.
Et oui, bah on va rester quand même sur la même thématique, hein, le déménagement. On n'est pas très original là, mais il y a tellement de choses à dire. Alors, j'ai une petite question pour vous, les filles. Si, alors je vais m'adresser à Judith là, si tu ne pouvais prendre qu'une seule chose avec toi en déménageant, ça serait quoi?
Excellente question. Alors, ça dépend si j'écoute ma tête, mon cerveau, ou si j'écoute mon cœur. Et je pense que les deux réponses vont pas spécialement vous plaire. Mais alors, si j'écoute vraiment ma raison, je pense que la seule chose que j'emporte avec moi, c'est mon ordinateur. Mais sans hésiter, dans mon ordinateur, il y a absolument toute ma vie. Et puis, c'est comme ça que je peux aussi monter les épisodes que vous regardez sur notre chaîne Easy French. Donc, ce serait compliqué si j'ai pas mon ordinateur avec moi. Mais si j'écoute mon cœur... Et la réponse va paraître bizarre, mais ce serait mes vêtements.
C'est vrai que c'est compliqué si tu es toute nue. Donc là, c'est le choix un peu entre être toute nue c'est ou vrai. Avoir l'ordinateur.
C'est vrai. Mais j'ai énormément de vêtements auxquels je tiens presque comme à des êtres humains. Alors, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de matérialiste? Je sais pas. Mais ouais, il y a vraiment des vêtements auxquels je tiens énormément et j'aurais beaucoup de mal à m'en séparer.
Ah, et toi, Hélène, alors? Est-ce que tu as réfléchi à ça?
Alors... je pense que ça va pas vous surprendre, mais comme Judith, si je devais écouter ma raison, je prendrais bien sûr mon ordinateur parce qu'il y a énormément de choses dedans. Et puis, c'est quand même l'objet qui m'a coûté le plus cher. Donc, j'ai pas très, très envie de m'en séparer aussi facilement. Après, si vraiment je devais prendre autre chose que mon ordinateur ou mon téléphone, je pense que j'emporterais mon Kindle parce qu'il y a tous mes livres dedans. C'est tout petit, un petit objet facile à transporter et il y a tous mes livres dedans et surtout je peux en rajouter quand je veux. Donc c'est vraiment un objet dont je me sépare pas facilement.
Franchement les filles, bravo, mais c'est incroyable parce qu'on passe nos journées sur l'ordinateur et moi quand j'ai posé la question, j'ai absolument pas pensé à ça. Pour moi c'était une évidence que tout le matériel pour Easy French, incluant l'ordinateur, était exclu de cette question. Donc oui, c'est vrai que ça serait compliqué sans l'ordinateur. Mais moi, je pense que je suis pas très... Je sais que Kindle, c'est incroyable. Ou tout autre type de marque comme ça. Les tablettes ou les... Comment on dit? Les applications plutôt où on peut...
Les liseuses.
Les liseuses, voilà. Merci. Les liseuses pour pouvoir avoir tous les livres à porter. Mais c'est vrai que je tiens tellement à l'odeur des livres, aux livres. J'ai un vrai problème à résoudre avec les livres que moi, je pense... Bon, c'est pas un objet, mais si c'était le cas, ce serait plutôt un groupe d'objets. Ce serait toute ma bibliothèque que je déplacerais. Ça, je pense que ce serait la dernière chose que je laisserais. S'il y a un feu un jour, je commence par ma fille, bien évidemment, mais ce n'est pas un objet. Et puis après, j'irai vers ma bibliothèque. vers les livres à prendre. Moi, les fringues, tout ça, je pense que je laisse derrière, sans problème. Après, c'est sûr que si l'ordinateur en fait partie, bah, l'ordinateur. Parce qu'on peut mettre Kindle dedans.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais, moi, les vêtements, pareil, m'en séparer, ça me... Bien sûr que j'apprécierais pas de me débarrasser de tous mes vêtements, mais c'est pas la chose à laquelle je tiens le plus. Peut-être que je prendrais mes lunettes. Je sais pas si ça compte, mais ça aide quand même.
Non, mais non. Alors là, ça compte pas.
Alors, comme Judith, si toi tu veux pas être toute nue, elle voudrait bien pouvoir voir ce qu'elle fait, quand même. Ou pouvoir savoir comment aller à son nouveau logement. Bon, mais les filles, moi, je pense que c'est le moment de passer à la section qui est définitivement ma préférée dans tout le podcast, je sais pas pour vous, et c'est...
Je râle, tu râles, nous râlons.
Oui, on va râler.
Râlons, râlons.
Alors ça, c'est le sport national. En tout cas, à Paris, n'est-ce
ouais.
pas
à Paris, oui. Médaille d'or tous les ans.
Et du coup, est-ce qu'on peut expliquer déjà ce que ça veut dire, râler?
Alors, râler, ouais... C'est se plaindre, mais en même temps, c'est peut-être moins passif que se plaindre. On est plus énervé quand on râle. On est un peu en colère, frustré, on n'est pas content. Quelque chose nous déplaît et on a besoin de l'exprimer sans forcément chercher une solution. C'est plus une manière d'évacuer.
Ouais, je suis vraiment d'accord, c'est une manière d'évacuer, c'est une forme d'expression. Des gens qui s'expriment par le chant, par la peinture, le Parisien s'exprime en râlant.
Drôle d'oiseau que le Parisien. Des grands artistes en vrai. Hein.
Exactement, exactement. C'est un art en soi, en fait, à Paris.
Et alors du coup, vous voulez les artistes nous dire qu'est-ce qui vous fait râler en ce moment?
Ah ben, c'est sûr que moi, c'est tout trouvé, hein. C'est les agences immobilières.
Oupsie.
L'ennemi public numéro un en ce moment.
Ah, et en ce moment, vraiment, les agences immobilières, les agents immobiliers, je les trouve horribles. Alors, j'imagine que ça ne doit pas être très évident de faire ce métier, de parfois devoir louer des appartements qui sont en mauvais état, mais voilà, il faut essayer de trouver quelqu'un pour le louer. Hein. Mais... parfois
quelqu'un
vraiment.
En bon état pour un appartement en mauvais état.
Exactement.
Ça c'est dit, ça c'est fait, on a râlé. Et toi Hélène alors? Peut-être quelque chose?
Alors moi, si je devais râler à propos de mon déménagement, ou des déménagements en général, ce que j'aime pas du tout, c'est arriver dans un appartement qui n'est pas en bon état, pas forcément au niveau de la propreté, mais par exemple au niveau de tout ce qui est travaux de rénovation. J'apprécie pas particulièrement de devoir nettoyer la poussière après des travaux de rénovation. C'est vraiment embêtant parce qu'il faut savoir que quand des gens viennent rénover votre appartement, si vous n'avez pas eu cette expérience, c'est super parce que vous allez avoir des peintures fraîches ou des nouvelles étagères ou un parquet verni. Mais en contrepartie, non seulement vous allez entendre du bruit si vous êtes là, beaucoup de bruit. Et en plus, après, c'est vos voisins qui vont venir se plaindre du bruit qui vient de chez vous, comme si c'était vous qui avez décidé d'utiliser une perceuse alors que vous subissez aussi... Et puis aussi, après, une fois que les personnes qui font les travaux partent, eh ben vous nettoyez, vous nettoyez, vous nettoyez. Moi, ça m'est arrivé en rentrant d'un voyage. J'avais passé la nuit dans l'avion et j'étais arrivée chez moi un dimanche à 7h du matin. J'avais pas dormi et j'ai dû nettoyer mon appartement pendant 3 heures qui était recouvert de poussière jusque dans les placards, sur mes affaires. J'ai aspiré mes oreillers, j'ai aspiré mes couvertures, mon canapé, tout, absolument tout, j'ai tout aspiré.
Bon, je pense que l'objet que tu aurais dû emmener avec toi, le choix c'était sur l'aspirateur, hein, qui devait... Je crois bien, non...
C'est vrai qu'un aspirateur, ouais, c'est quand même super utile.
Non, mais c'est incroyable. Moi, personnellement, en fait, ce qui m'embête le plus, c'est quand on utilise des déménageurs ou même des gens, parce qu'on peut, par certaines applications, payer des personnes pour nous aider un petit peu à déménager. Des fois, on retrouve des objets cassés ou carrément, nous, en déménageant, on a eu la machine à laver qui a été mise et qui a cassé le tuyau d'évacuation, ou qui était déjà cassé, très faible, parce que c'était pas nous, hein, c'était un truc en mauvais état. Et puis du coup, tu te retrouves à pas prendre de douche en arrivant chez toi. Des petites choses comme ça, des petits couacs comme ça, qui me font vraiment fâcher, râler. Voilà. Mais bon, il n'y a pas que des mauvaises choses. Du coup, on va passer à la section suivante. Et ça, c'est...
Les ondes joyeuses.
Alors, vous avez des belles choses à nous dire, les filles ?
Alors, moi, ce qui me rend joyeuse, et j'en parlais justement avec Judith pas plus tard qu'hier ou avant-hier, c'est au début du printemps, comme maintenant, de voir les gens attablés aux terrasses des cafés, en train de profiter du soleil, de boire un verre ou de boire un café, être avec leurs amis, passer un bon moment. Et de voir ça, même si moi, je ne suis pas forcément en train de profiter du soleil parce que je suis soit en tournage ou soit en direction d'un tournage, de voir ça, ça me rend joyeuse. J'ai l'impression que la vie
est
belle.
C'est vrai que c'est vraiment génial hein, quand le soleil pointe le bout de son nez à Paris, y a une ambiance qui est vraiment magique. On a vu des gens boire des verres de vin sur des gros tonneaux de vin, et rigoler, et profiter de la vie. C'est vrai que c'est magique. Moi, si j'ai une chose positive à partager, c'est la découverte de la gastronomie éthiopienne. Et ce, grâce à Hélène qui est revenue d'Éthiopie et qui nous en a parlé en long, en large et en travers. Et alors, on a voulu essayer. On a essayé toutes les trois. Et j'y suis retournée ensuite toute seule. Tant j'ai aimé. Vraiment, c'est une gastronomie qui est toute mijotée, ouais. Pleine d'épices, réconfortante et surprenante aussi. Parce que c'est des goûts que je ne connaissais pas. Et donc, j'ai été très contente de découvrir ça.
Bon, on précise quand même que tu n'étais pas complètement toute seule au restaurant devant ton petit plat.
C'est vrai, j'y étais avec mon amoureux, voilà.
Super, manger de la bonne cuisine avec son chéri, quoi de mieux ? On est bien là, c'est des belles ondes, vraiment. Moi, je pense que les filles, là, l'épisode touche presque à sa fin. Alors, on va passer à la dernière section.
Vos questions.
Alors, aujourd'hui, les amis, on va répondre à... deux petites questions, ou plutôt il y a une question et une remarque qu'on a eue sur notre chaîne YouTube. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez communiquer avec nous, nous demander des choses, à écrire dans les commentaires de YouTube. Donc là, on a Rebecca qui nous a posé une question et j'ai pensé que c'était important d'y répondre. La différence entre un salon et une salle de séjour, c'était en rapport avec notre épisode sur la maison. Donc là, comme on parle d'emménagement dans cet épisode, c'est aussi en lien. Alors, un salon, les filles, c'est quoi pour vous un salon ?
Un salon, c'est un espace de vie où généralement, on a une... En tout cas, en famille, on a une table à manger, on se retrouve pour manger. On peut aussi, ou pas d'ailleurs, hein, mais on peut aussi, dans le séjour ou dans le salon, avoir un espace avec des sofas, de détente. On peut avoir la télé, pour ceux qui veulent avoir une télé, pour pouvoir regarder ça en famille. Donc, en résumé, c'est un espace de vie commune pour tous les habitants de l'appartement ou de la maison. Encore faut-il avoir une maison, un appartement où il y a plusieurs pièces, bien évidemment. Mais voilà, le salon, c'est l'espace où se regroupe toute la famille pour, je ne sais pas, un dimanche après-midi, jouer aux jeux comme le Monopoly, par exemple, ou d'autres jeux en famille, ou alors boire un bon petit thé, ou regarder une émission qu'on aime bien. Voilà, un espace de vie commun. Et vous ?
En écoutant la réponse de Rita, je réfléchissais et je crois qu'un salon, c'est plus un concept. C'est-à-dire vraiment, en fait, on peut dire « je suis dans le salon » sans que ce soit une pièce délimitée. Si par exemple, on a un petit espace, eh ben, on a un espace salon. Ça va être l'endroit avec un fauteuil, peut-être un canapé, une télé. Alors qu'une salle de séjour, ça veut dire qu'on a physiquement une pièce délimitée entre quatre murs qui sert de salon. C'est ce que je dirais.
Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette définition. Et donc, pour vous, est-ce qu'il y a une différence entre un salon et une salle de séjour ?
Mais je ne sais pas, parce que c'est vrai que dans les annonces que j'ai lues, ils disent salle de séjour / salle à manger. Donc, comme si c'était deux choses différentes.
Ah, ça me paraît très bien. Je n'y avais pas du tout pensé. Pour moi, c'était plutôt une histoire de taille. J'aurais pensé qu'une salle de séjour, c'était plus grand.
Moi aussi. Oui, moi aussi, je pense. Je pense que... En plus, ça, après, ça va dépendre de chez nous, mais j'ai pensé comme toi, Hélène, plutôt la taille. Et puis, moi, tout à l'heure, je mentionnais, mais je mélangeais un peu entre le salon et la salle à manger. Enfin, mais le séjour, c'est vraiment la pièce, normalement, où on passe le plus de temps. Et celle qui est la plus grande, je pense, pour recevoir donc le plus de monde possible de la famille. Donc, je pense que c'est pas faux. Tout
oui.
Ça se rejoint un petit
et
peu.
Et aussi, dans la salle de séjour, je pense que ça inclut la salle à manger. c'est-à-dire une table avec des chaises autour pour principalement pour dîner. Alors que le salon, je pense normalement, ouais,
c'est
normalement n'inclut pas la partie salle à manger, mais seulement la partie détente avec, comme tu disais, les canapés, oui. Table basse pour prendre le café éventuellement, la télé, mais pas de table pour prendre un repas. On a une autre question, et il s'agit aussi d'une distinction entre deux pièces. Celle-ci, ça va être un petit peu plus facile, je pense. On nous a demandé à plusieurs reprises quelle était la différence entre les toilettes et la salle de bain. Est-ce que les filles, vous pourriez expliquer ça?
Ça va. Ça, il ne devrait pas y avoir de confusion. Alors, les toilettes, c'est la pièce, souvent du coup très petite, où il y a les toilettes. Et alors, la salle de bain, c'est une pièce où on va retrouver du coup un lavabo, une douche ou une baignoire, des rangements peut-être, et il peut y avoir aussi des toilettes. À ce moment-là, les toilettes sont dans la salle de bain.
Et d'ailleurs, s'il n'y a pas les toilettes, il doit y avoir autre chose à la place.
Peut-être on peut trouver un bidet.
Un bidet.
Alors, qui veut bien expliquer ce que c'est que le bidet?
Honnêtement, j'ai peur de dire une bêtise, donc vas-y, Hélène.
Un bidet, c'est un objet, oui. Je pense qu'en fait, c'est comme un lavabo, sauf que c'est beaucoup plus bas. C'est au niveau... je pense que c'est à peu près à même hauteur que des toilettes, à peu près. Et c'est un lavabo qu'on utilise pour se laver après avoir utilisé les toilettes, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc pour se laver...
Je pense qu'il est un peu plus bas, naturellement. Il est beaucoup plus bas.
C'est plus bas, ouais.
Oui. Oui, bah dans beaucoup de pays, hein, les gens n'utilisent pas que du papier toilette, mais, ou du PQ, comme on dit. Mais ils utilisent beaucoup, ils ont généralement des douchettes, pour ceux qui n'ont pas des toilettes japonaises. Hein. Mais il y a des douchettes déjà dans les toilettes. Mais c'est vrai que le bidet, c'est un concept. Je sais qu'en Italie, c'est quelque chose qu'ils connaissent. En France aussi, je ne sais pas si dans d'autres pays d'Europe, d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter si chez vous même, hors Europe ou en Europe, vous avez des bidets. Voilà, ça nous intéresse de savoir comment vous vous lavez.
Oui, ben, merci beaucoup les amis d'avoir écouté, de nous avoir écoutés, d'avoir partagé ce moment avec nous, ce moment qui est aussi un moment de convivialité, même si on n'est pas en direct avec vous. On vous parle et ça nous fait vraiment super plaisir de pouvoir vous partager un peu de notre quotidien, de nos expériences.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.